Alors je propose de recommencer alors. Deuxième heure, donc, nouveau point de départ. Mon point de départ est situé à 26 km au nord de Colmar, à 55 km au sud de Strasbourg, à 12 km à l'ouest de Sélestat. On y accède par l'autoroute A35, sortie 17 via Kinsheim ou 18 via Saint-Hippolyte. C'est le château du Haut-Königsbourg, offert par la ville de Sélestat à Guillaume II de Hohenzollern en 1899 et restauré par l'architecte Baudot, je n'ai pas dit Bobo, hein, Baudot Eberhardt, entre 1900 et 1908. Placé à la frontière ouest de l'Empire, comme le château de Marienburg l'est à l'est, le château donc du Haut-Königsbourg possède une curiosité. La cheminée de la salle des fêtes. Sur le garde-feu de la cheminée, on lit en effet, surtout si on a de bons yeux, l'inscription Ach, ich habe es nicht gewollt. Je n'ai pas voulu cela. D'aucuns attribuent cette phrase à Guillaume II, qui aurait voulu marquer dès 1915 sa désapprobation du bain de sang dans lequel l'Europe, le monde, se trouvait plongé. En fait, cette grille n'a été forgée, semble-t-il, qu'en 1917, sans avoir été, semble-t-il toujours, commandée par l'empereur. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Frédéric Guillaume, Victor Albert de Hohenzollern, a bien exprimé son regret. Si l'on en croit un article de l'Arbeiter Zeitung du 1er août 1915, qui cite approximativement une déclaration de l'empereur qui, visitant le front de l'Ouest, aurait déclaré à la vue d'un monceau de cadavres « Ma conscience est pure devant Dieu et l'histoire. Je n'ai pas voulu la guerre. Vor Gott und der Geschichte ist mein Gewissen rein. Ich habe den Krieg nicht gewollt. » C'est en tout cas la phrase « Ich habe es nicht gewollt »« Je n'ai pas voulu cela » que reproduit une abondante production de cartes postales de propagande montrant l'empereur casque à pointe à la main, tête inclinée devant la tombe qu'on imagine fraîche d'un soldat tombé au front. Voici un exemple de ces cartes postales. « Ich habe es nicht gewollt. Je n'ai pas voulu cela. » Je n'ai pas voulu cela. On retrouve la phrase qui s'en étonnera dans l'extraordinaire, torrentielle et folle pièce de théâtre de Karl Kraus, publiée sur son journal Fackel entre 1915 et 1922 sous le titre Die letzten Tage der Menschheit, les derniers jours de l'humanité. Elle figure en conclusion, terrible, lugubre, comme dernière réplique de la pièce, véritable mot de la fin. Stimme von oben, der Sturm gelangt, die Nacht verwillt, zerstört ist Gottes Ebenbild. Zerstört ist Gottes Ebenbild. Groß Schweigen, die Stimme Gottes, ich habe es nicht gewollt. Dernier jour de l'humanité, scène finale, une voix d'en haut, l'assaut a réussi dans un combat furieux et détruit ce qui fut à l'image de Dieu. Grand silence, la voix de Dieu, je n'ai pas voulu cela. On oublie, bon c'est bouleversant, mais on oublie trop souvent que cela, ich habe es nicht gewollt, a été dit auparavant par petit Guillaume, cette fois de manière purement ironique, dans l'acte 3, scène 40, qui met en scène Mariechen et Willichen, petite Marie et petit Guillaume. Frau Kommerzienrat van Schaffe, die bis jetzt leuchtenden Auges zugehört hat, Mariechen, sei du mans ganz stille. Vater sagte, ihr dürftet Weltkrieg spielen, aber die Grenzen der Humanität müsstet ihr einhalten. Willichen kann keiner Fliegenhaar krümmen. Er schützt seinen Besitzstand so gut er kann. Er führt einen heiligen Verteidigungskrieg. Willichen weinend. Ich habe es nicht gewollt. Mariechen, wer denn? Ma petite Marie, tiens-toi à carreau, tu veux? Votre père a dit que vous aviez le droit de jouer à la guerre mondiale, mais vous devez respecter les limites de l'humanité. Mon petit Guillaume ne ferait pas de mal à une mouche, il protège son bien autant qu'il peut, il mène une sainte guerre défensive. Petit Guillaume pleurant, je n'ai pas voulu cela. Petite Marie, qui alors? Qui alors? Je n'ai pas voulu cela. Avec cette illustration dramatique dans tous les sens du terme de la définition du sujet comme sujet d'imputation, nous voilà confrontés en une petite phrase et au niveau où se nouent la volonté et l'action au double problème de la définition du vouloir et de la distinction entre le vouloir et ce que j'appellerais pour le moment le ne pas vouloir. Il y a bien des façons d'aborder ces questions. La manière archéologique n'excluant pas la clarification conceptuelle et l'analyse philosophique, je partirai comme souvent, et comme je le referai d'ailleurs bientôt, d'un texte du grand philosophe américain Roderick Chisholm, 1916-1999, tiré de « La liberté humaine et le moi »,« Human freedom and the self ». Il s'agit d'un casus quasi-médiéval, d'une expérience de pensée, si vous préférez, qui va servir à mettre en place une série de distinctions à la suite d'une analyse rigoureuse. La situation, à nous, Français, semblera tout à fait improbable. Chisholm est américain, donc il a probablement une vision assez différentes des choses. Envisageons le cas d'un fonctionnaire moralement scrupuleux, bien que dans certaines limites. En raison de ses scrupules moraux, il ne ferait rien pour recevoir un pot de vin. Il n'en solliciterait pas de façon active. Mais parce que sa moralité a des limites, s'il devait être confronté à un fait accompli, ou encore être informé d'un état de choses à venir, par exemple 10 000 dollars qu'on déposerait derrière son garage, il succomberait à la tentation et serait incapable de résister. Il s'agit là, dit Chisholm, d'une situation générale assez familière qui explique que les gens prient pour être délivrés de la tentation. Selon son habitude, il est un des rares philosophes de la tradition analytique à le faire. Chisholm, précisément pour clarifier son propos, évoque un auteur du Moyen Âge. En l'occurrence, celui que les Anglais appellent Anselme de Canterbury, où le dit Anselme est mort archevêque en 1109, que les Français appellent Anselme du Bec, en raison de son appartenance bénédictine à l'abbaye Notre-Dame du Bec en Normandie, au Bec et Loing, près de Brionne, et que certains Italiens appellent Anselme d'Aoste, où Anselme est censé être né en 1033. Alors, pourquoi recourir à Anselme ? Parce que, dit Chisholm, notre relation à la mauvaise action que nous envisageons peut ne pas consister seulement dans le fait de pouvoir la produire ou non. La situation est plus complexe. Elle est plus riche. Et c'est ce qu'a bien vu philosophiquement Anselme. Comme l'a remarqué saint Anselme, donc notre relation à la mauvaise action, le pot de vin, que l'on perçoit ou non, ne consiste pas seulement dans le fait de pouvoir produire ou non cette action. Comme l'a remarqué saint Anselme, il existe au moins quatre possibilités que nous pouvons illustrer sur notre exemple du fonctionnaire et de l'événement consistant à recevoir un pot de vin. Vous trouverez ça dans La liberté humaine et le moi, entre autres, un texte repris dans La responsabilité question philosophique, ouvrage édité par M. Neuberg, Paris, Presse universitaire de France. En anglais, there are at least four possibilities. On peut illustrer cela donc de quatre façons, parce que notre relation au misdeed ne réside pas simplement dans le fait d'être able to bring it about or not to bring it about. Vous notez donc l'expression to bring about, rendue dans la traduction que j'ai mentionnée il y a un instant par produire. Quelles sont donc ces quatre possibilités? Donc, l'affaire du pot de vin, mais avec une conceptualité anselmienne et des distinctions faites par Anselme. Première possibilité, le fonctionnaire peut être capable de produire lui-même l'événement, ce qui, dans le latin d'Anselme, se dirait « facere esse », auquel cas il se causerait activement lui-même à recevoir le pot de vin. Ce n'est pas du Chateaubriand. Hein, bon. Deuxièmement, il peut être capable de s'interdire de le produire lui-même, non facere esse, auquel cas il ne ferait rien lui-même pour s'assurer de recevoir le pot de vin. L'anglais, he would actively cause himself to receive the bribe, traduit par il se causerait activement lui-même à recevoir le pot de vin. He may be able to refrain from bringing it about himself. Deux premières possibilités. On en a ces quatre. Voici la troisième et la quatrième. Il peut être capable de faire quelque chose pour empêcher que l'événement se produise. Facere non esse. Auquel cas, il fera en sorte que les 10 000 dollars ne soient pas déposés derrière son garage. Je t'interdis de faire ça. Quatrièmement, il peut être incapable de faire quoi que ce soit pour empêcher que l'événement ne se produise, non facere, non esse. Auquel cas, bien qu'il n'eût pas sollicité le pot de vin, il accepterait de le recevoir. En anglais, on dirait plutôt peut-être, bien qu'il n'ait pas, sollicité le pot de vin, il s'autoriserait lui-même, would allow himself to keep it, à pas même le recevoir, mais à le garder. Bon. Alors, il se causerait activement lui-même à recevoir le pot de vin. Je disais que ça n'était pas du Chateaubriand, c'est pas très beau, effectivement. Bon, mais que dire? L'idée, c'est que ce fonctionnaire indélicat ferait tout le nécessaire, ferait ce qu'il faut, ferait tout pour recevoir le pot de vin, n'est-ce pas ? Mais bon, il faut malheureusement garder le mot « causer » pour des raisons qui vont apparaître rapidement. Dans l'exemple que nous avons évoqué, donc, avec Chisholm, Chisholm insiste sur le fait que le fonctionnaire peut résister à la tentation indiquée par un, produire lui-même l'événement, mais il ne peut pas résister à la tentation indiquée par quatre. C'est-à-dire, il ne peut pas se résoudre, en somme, à faire quoi que ce soit pour empêcher le dépôt du pot de vin. Le recours à Anselme ne doit pas étonner. L'auteur du Monologion est certainement l'un des auteurs les plus proches de l'analyse philosophique telle que l'entendent et la pratiquent beaucoup de modernes. Dans le cas présent, la source de Chisholm est un texte peu connu, ou disons moins connu, que les grands classiques que sont devenus le Monologion, le Proslogion ou le De Grammatico. Il s'agit de fragments découverts dans un manuscrit de Lambeth Palace Library, donc une bibliothèque fondée en 1610 à Londres, qui contient beaucoup de matériaux relatifs à l'archevêché de Canterbury. Donc dans le Lambeth numéro 59, intitulé « De potestate et impotentia », possibilitate et impossibilitate, necessitate et libertate, eh bien, dans ce manuscrit, sous ce titre, on trouve un certain nombre de fragments, donc sur la puissance et l'impuissance, la possibilité et l'impossibilité, la nécessité et la liberté, on trouve un certain nombre de fragments qui ont été découverts donc, en 1936 et publié par le grand éditeur d'Anselme, Schmitt, sous le titre donc de Lambeth Fragments. Philosophiquement, le faire renvoie au pouvoir et au vouloir. Tout particulièrement, s'agissant de définir la liberté, dont une définition standard est précisément fondée sur la combinaison des trois, faire, pouvoir et vouloir. Le vouloir-faire renvoie au faire et au pouvoir. Au pouvoir-faire, le pouvoir renvoie au vouloir et au faire. Ces renvois ne sont pas tous du même ordre et les termes ne se groupent pas tous de la même façon. C'est la tâche du philosophe de clarifier leurs relations s'il veut traiter de la puissance et de l'impuissance, de la possibilité et de l'impossibilité, de la nécessité et de la liberté. Anselme, dans les fragments dont nous disposons, part du « faire », « facere », fournissant du même coup un modèle que l'on peut étendre problématiquement ou heuristiquement au vouloir et à certaines combinaisons du vouloir et du pouvoir, ce qui est d'un grand intérêt quand on a présent à l'esprit la définition que je disais standard, critiquable et souvent critiquée notamment par Chisholm, comme on le verra, de la liberté comme pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Pouvoir faire, vouloir, pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Voilà une des définitions standards de la liberté qui vont être mises en cause grâce au fragment Lambeth. Donc, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on appelle faire, ou bien fait en sorte que quelque chose soit, ou fait en sorte que quelque chose ne soit pas. Donc, tout faire peut être appelé faire être ou faire non être, qui sont deux affirmations contraires, qui ont deux opposés, deux négations, non facere esse, ne pas faire être, et ne pas faire, ne pas être. On peut représenter ces quatre possibilités par ce que j'appelle le carré du faire. Les numéros correspondent à l'ordre dans lequel les termes ont été introduits par Anselme, mais le dispositif du carré correspond à des relations logiques. Donc, facere esse, fe, qui s'oppose à facere non esse, fne. En dessous, nous avons nfne, non facere non esse et non facere esse en deux. On confond souvent ou on exprime souvent, note Anselme, 1 par 4, 4 par 1, ou bien 3 par 2 ou 2 par 3. En tout cas, faire être, ne pas faire être, faire ne pas être ou ne pas faire ne pas être, on a là des verbes auxquels, si on peut dire, manque un objet, un terme, un terminus. Faire être quoi ? Que veut dire exactement facere esse ? Plusieurs philosophes et historiens de la philosophie ont analysé et discuté le texte d'Anselme. Le plus célèbre est le grand anselmien Desmond Henry, éditeur et commentateur du De Grammatico, le texte d'Anselme sur Grammairien, je ne dis pas le Grammairien, spécialiste de la logique d'Anselme, mais aussi de la mériologie, c'est-à-dire de la théorie des parties et des touts et des parties, théorie logique, moderne et médiévale. Dans un article portant directement sur la logique de l'action ou de l'agence, Anselm's Logic of Agency, Sarah Huckelmann, qui s'appuie sur des analyses de Desmond Henry, répond à la question de ce que j'appelais l'objet ou le terme du facere esse. C'est dans son analyse du faire, du doing, que réponse est donnée. Faire, dit-elle, c'est, cela signifie, faire en sorte que quelque chose soit ou ne soit pas. Ce qui veut dire que faire revient à faire en sorte que P, ou P, désigne un état de choses. X fait signifie donc X fait en sorte que P, X fait que P. Vous avez ici donc l'analyse en anglais de Sarah Huckelmann, et vous voyez que P est une proposition, enfin la lettre P désigne une phrase, une clause littéralement, qui décrit un certain état de choses, tandis que non P est une abréviation pour ce n'est pas le cas que P. Bon, en tout cas, on peut retranscrire tout le propos anselmien en termes de causalité. Faire être, c'est causer à être. C'est causer P à être. Causer P à être étant une abréviation pour faire en sorte que P soit le cas. On a donc quatre possibilités désignées par A, B, C et D. Facere esse, dans le langage de la causalité, to cause to be. B, facere non esse, to cause not to be. Non facere non esse, not to cause not to be. Non facere esse, not to cause to be. Dans expression, donc, to cause P to be should be understood as a shorthand, une abréviation pour to do such, faire en sorte que P soit le cas. Si un agent X fait en sorte que P est le cas, alors il cause P à être et réciproquement. Cette abréviation est licite, dit-elle, dans cette situation. les types A et B, facere esse, facere non esse, sont affirmatifs et ce sont des contraires, selon Anselme. Les types C et D sont appelés négatifs et même si Anselme ne le dit pas explicitement, ce sont aussi des contraires, ce qui fait que les relations entre ces quatre peuvent être représentées par un carré que Uckelmann appelle le agentive square of opposition, que voici. Donc vous reconnaissez le carré logique d'Aristote avec simplement les termes que nous avons employés, A, B, C et D, facere esse, facere non esse, non facere non esse, non facere esse. To cause to be, to cause not to be sont des contraires. To cause to be, not to cause, not to be sont plus ou moins subalternes, n'est-ce pas, ou équivalents. Not to cause to be et to cause not to be sont subalternes, plus ou moins équivalents. Ce que veut dire Anselme, c'est qu'on emploie souvent mais à tort et dans un sens impropre l'un pour l'autre. En tout cas, not to cause not to be est bien la contradictoire de to cause not to be, et to cause to be est bien contradictoire de not to cause to be. A est contradictoire de D, B est contradictoire de C. A et B sont des contraires, C et D sont des contraires. On dirait en logique médiévale des subcontraires. Donc, vous voyez, on a une structure logique rigoureuse, hein, une analyse qui correspond donc, à une première analyse du fer chez Anselme. On pourrait développer cela, puisque vous savez que les contraires ont certaines propriétés logiques qui ne sont pas celles des contradictoires. On pourrait entrer plus en détail dans les relations entre ces quatre-là. Mais ce serait aller trop vite, car en fait, le propos d'Anselme ne s'arrête pas là. Dans un second temps, Anselme distingue en fait six modes du faire. Il y a, dit-il, six modes du faire. Sex modis facere pronuntiamus. Alors, les six modes du faire que. On peut dire que je prends en considération la deuxième moitié de mon texte. On peut dire que on fait à liquid esse être quelque chose, soit parce que facit idipsum esse, c'est ça qu'on appelle vraiment facere, soit parce que non facit idipsum non esse, soit parce que facit aliud esse, soit parce que non facit aliud esse, soit parce que facit aliud non esse, ou bien non facit aliud non esse. Alors, on se dit, c'est bel et bon, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Bon, on distingue ici, comme le montre bien Uckelmann, une action, une agence positive. Autrement dit, les cas où l'agent fait quelque chose. Et l'agence négative, c'est-à-dire le cas où l'agent ne fait pas quelque chose. C'est le premier contraste. L'agent fait quelque chose, l'agent ne fait pas quelque chose. Ensuite, on distingue l'agency, l'agence, l'action, l'activité directe que Anselme va appeler per se, par soi. Ou l'agent fait en sorte que un certain effet se produise. Il ne fait pas quelque chose, mais il fait en sorte que quelque chose se produise. Et il le fait directement, lui-même. De cela, on va distinguer les cas où l'agent fait en sorte que quelque chose se produise, mais le fait indirectement, autrement dit, ne le fait pas lui-même. ce n'est pas lui-même qui fait en sorte directement que quelque chose se produise. Il fait en sorte que quelque chose se produise par l'intermédiaire d'autre chose. Donc il fait, il est responsable au fond, de ce quelque chose par l'intermédiaire de quoi l'autre chose se produit. Positive agency, negative agency, direct per se agency, indirect per aliud agency. Et dans le cas de l'agency per aliud, n'est-ce pas, il faut continuer l'analyse et dire qu'effectivement, l'agent peut indirectement accomplir une action par l'intermédiaire d'autre chose, mais il peut aussi indirectement ne pas accomplir cette action, faire en sorte qu'elle ne s'accomplisse pas. Donc on a six modes qui sont listés ici de l'action selon Anselme, revu par Uckelmann. Positive per se, négative per se, positive proximal, c'est-à-dire prochaine per aliud, négative proximal per aliud, positive distal, c'est-à-dire éloignée per aliud, et négative distal per aliud. On peut illustrer ces six modes par des exemples, les exemples que donne Anselme lui-même. Et les exemples ne sont pas bien joyeux, il s'agit de tuer. Cette fois, nous y sommes. Hein. Je tue nous. Non, là, tuer. Premier cas, positif per se. Quelqu'un, facere id ipsum esse, peut tuer quelqu'un de ses mains. Le latin facere id ipsum esse, hein, donc quelqu'un tue quelqu'un d'autre de ses mains. Non facere id ipsum esse, le deuxième cas. Alors là, bon, on aime la logique, mais que dire? C'est difficile de trouver un exemple. Il faut sortir de la situation du meurtre. Et donc, Anselme se place du point de vue de la résurrection et dit, eh bien là, n'est-ce pas, c'est ne rien faire pour ressusciter un mort. Une fois qu'on l'a descendu, n'est-ce pas, on ne fait rien pour le ressusciter. Bon, l'exemple est un peu capillotracté, mais enfin, c'est pour les besoins de la logique. C'est beaucoup plus situationnel, contextuel et évident dans les cas suivants. Facere aliud esse. Alors, faire autre chose, faire que quelque chose d'autre soit. Donc, on va, qui va permettre, n'est-ce pas, d'obtenir le résultat voulu. Alors, on va mieux analyser ça dans la suite, mais voici l'exemple. C'est armer le tueur. Si je donne une arme au tueur, je fais en sorte qu'il puisse réaliser son objectif, à savoir tuer la victime. Facere aliud esse, c'est faire, je fais quelque chose, je lui donne une arme, et lui fait ce qu'il a à faire, à savoir il tue. Non facere aliud esse, c'est ne pas armer la victime, c'est-à-dire ne pas donner à la victime le moyen d'échapper au meurtre. Ni Anselme. Facere aliud non esse, making, c'est désarmer la victime. La victime était armée, on lui retire son arme, ce qui fait que on la rend non armée et donc on la met à la merci de l'assassin. Et enfin, on a non facere aliud non esse, qui est ne pas désarmer le tueur. Donc, tuer, ne pas ressusciter, armer le tueur, ne pas armer la victime, désarmer la victime, ne pas désarmer le tueur. Voilà les six modes distingués par Anselme. Alors vous voyez qu'on a utilisé Persée, Peraliud, dans cette, cette, ce dispositif, la distinction percée par soi, Peraliud, par un autre, un large spectre chez, chez Anselme. Et elle s'applique à bien d'autres domaines que la logique du faire. C'est un des concepts de base de la sémantique. Et il serait intéressant de connecter les divers domaines d'application du percée Peraliud chez Anselme. On peut le faire ici. On peut, et l'on doit en revanche, revenir sur les six modes de manière plus systématique. C'est ce que nous allons faire en examinant les analyses de Douglas Walton, pour qui l'approche anselmienne, ce qu'il appelle l'approche anselmienne, offre un modèle logique de l'action dont la pertinence reste aujourd'hui entière. Sa présentation du modèle anselmien se veut formelle, l'agency étant interprétée, exprimée plus exactement par un opérateur phrastique, sentential operator, relativisé, relatif donc dans le domaine de la portée et restreinte à des individus, donc un opérateur noté delta AP, que l'on peut paraphraser comme A, donc A, brings it about that P obtains. Donc, A fait en sorte que P est le cas. Ou, dit-il plus littéralement, A brings it about that P is true. A fait en sorte que P est vrai. Alors, on va distinguer A fait en sorte que P est vrai. A fait, où est le cas ? A fait en sorte que P n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas que A fait en sorte que P, et ce n'est pas le cas que A fait en sorte que non P. Walton dit, poursuit en disant que le modèle anselmien distingue l'action directe, si vous me passez l'expression, bring it about that P, et l'action indirecte. Alors, c'est intéressant, ça, c'est bring it about that Q, where Q is a sufficient condition for P. Faire en sorte que Q ou Q désigne une condition suffisante pour que P soit le cas. Un agent, enfin, peut bring about something itself, faire en sorte que quelque chose soit le cas lui-même, per se, facere esse, ou faire en sorte que peraliud, à travers un autre, soit le cas, un certain état de choses. Donc vous avez ici les six modes de l'action selon Anselme, revus dans la terminologie logique de Walton. Au passage, bring about, hein, c'est bien difficile, et obtain, c'est bien difficile, c'est-à-dire que avec Walton, on est face à deux expressions anglaises qui sont difficiles à rendre en français et qu'on peut rendre en français autrement que de manière inélégante, n'est-ce pas, ou parfois peu convaincante. Alors, bring about, ça peut vouloir dire faire arriver, amener, provoquer, occasionner, et souvent on oppose cela à causer, mais ici ça n'est pas le cas, c'en est synonyme, mais d'un point de vue tout à fait précis qu'on va maintenant essayer dans les minutes qui restent de préciser. Donc dans l'idiome de Walton, colonne de gauche, hein, les six modes d'Anselme qui sont notés en latin dans la colonne de droite deviennent donc premier cas A brings about that P, hein, donc A, facere ipsum esse, tue directement quelqu'un. Donc c'est faire en sorte directement, hein, que la victime de mon acte soit morte, hein, donc tuée. Deuxième possibilité, non facere ipsum non esse. A. Ce n'est pas le cas que A fait en sorte que non P. Hein. Alors c'est en anglais not making, not dead. Exemple, not raising the dead man to life. Should one have the power to so to do? Bon. Troisièmement, alors, A fait en sorte que Q est, si Q, alors B fait en sorte que P. Fakre, Alioud, Essay. Donc c'est dans l'analyse d'Anselme, c'est donner une arme au tueur, hein, et dans le jargon de Walton, cela devient bringing about, bon, faire en sorte qu'il y ait un certain état de choses, Q, tel que quelqu'un d'autre, B, va tuer la victime. Donc, Q désigne un état de choses. Le tueur a une arme. Et l'on poursuit ce chemin de croix. A ne fait pas en sorte que Q ait, si Q, alors ce n'est pas le cas que D, que B fait en sorte que P. Failing to bring about that some Q such that somebody else does not kill the victim. Bon, en fait, c'est beaucoup plus clair si on dit que, effectivement, on n'arme pas la victime. On n'a pas fait en sorte qu'il y ait un état de choses, un état du monde, tel que quelqu'un ne tuerait pas la victime. Cet état de choses eût été que la victime posséda une arme. Donc on ne lui a pas donné d'arme, on n'a pas empêché son meurtre. On a donc ensuite facere aliud non esse. Ce n'est pas le cas que... A ne fait pas en sorte que non Q, et si Q, alors D ne fait pas en sorte que P. Cela, donc, c'est désarmer la victime, hein, c'est faire que la victime ne soit pas armée, donc c'est faire en sorte qu'il y ait un certain état de choses Q, tel que cet état de choses ne soit pas le cas, Q signifiant que quelqu'un d'autre ne tue pas la victime. Autrement dit, ce serait le fait pour la victime d'avoir une arme. On l'a désarmée. Et enfin, on a not bringing it about that some Q fails to obtain where Q is such that somebody else kills the victim. Donc on ne fait pas que le tueur ne soit pas armé, c'est-à-dire qu'on ne le désarme pas. Hein. A ne fait pas en sorte que non Q, et que, étant entendu que si Q, alors B fait en sorte que P. Bon. C'est sévère, mais là, on voit que la première grande contribution d'Anselme est de faire place dans sa théorie de l'action en l'espèce du facere aliud esse, numéro 3, à la causalité que l'on dira par la suite instrumentale. C'est d'une importance capitale pour la noétique, la théorie de la pensée, pour la physique et la métaphysique, mais aussi, on le verra, pour la christologie et le traitement du problème des deux volontés ou des deux opérations humaines et divines chez le Christ. La seconde grande découverte d'Anselme, qui contribue à la force de son approche, c'est de donner un modèle de l'action qui fait place à l'omission. C'est de recherche important pour un théologien. Faire et omettre, entendez, omettre de faire, ce sont les deux pôles de l'analyse du péché. L'un positif, l'autre négatif ou privatif. Quel est, en effet, le statut ontologique de l'omission ? Privation du faire ou faire négatif ? La question est délicate. Elle a dû tourmenter les pères du Concile de Vatican II, qui ont retiré l'omission du Confiteor, autrement dit de la formule « j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». L'omission est omise dans le missel de Jean 23. Elle n'a été rétablie que dans celui de Paul VI. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virginii, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Peccavi, Nimis Cogitatione, Verbo et Opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Avec Paul VI, on revient à Confiteor Deo Omnipotenti et Vobis Fratres, Quia Peccavi, Nimis Cogitatione, verbo opere, et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. La force du modèle anselmien est réelle. En tout cas, le carré de l'agence peut être, comme je le laissais entendre tout à l'heure, étendu au vouloir, en un véritable carré du vouloir, introduisant une différence majeure en l'espèce de 3 et 2 dans le schéma suivant, entre deux modalités du vouloir permettant de distinguer le vouloir négatif, qui est un acte positif dans le voulant, et la négation du vouloir, qui est un acte négatif dans le voulant. Donc une niche pour l'omission. Vous avez cela ici, vouloir, ne pas vouloir, deux, vouloir ne pas, trois, et ne pas vouloir ne pas, 4, je me suis calé sur le carré de l'agence pour disposer dans le même ordre les volontés. Et vous pouvez, sur le même modèle, construire un carré du vouloir faire. Vouloir faire, ne pas vouloir faire, vouloir ne pas faire et ne pas vouloir ne pas faire. Je reviens sur la différence, pour conclure, entre vouloir ne pas, VN, et ne pas vouloir, NV. Elle court du Moyen Âge à l'âge classique et au-delà, sous la forme d'une distinction bien exprimée en latin par le couple volé, nolé, pardon, volé, volé, nolé, vouloir ne pas, et non volé, ne pas vouloir, ne pas vouloir que. La distinction nolé versus non volé est très importante. Elle est bien exprimée, alors quand je vous dis qu'elle est anselmienne, mais on la retrouve à l'âge classique, mais effectivement, vous la retrouvez dans le Lexicon Philosophicum Terminorum Philosophis Usitatorum, 1653, de Michaelius, qui n'est autre que Johannes Lütkeschwager, 1597-1658, dont le Lexicon Philosophicum Terminorum Philosophis Usitatorum, ordine alphabetico sic digestorum, utinde facile liceat cognosce, eh bien, a été publié effectivement à Iéna en 1653. Vous voyez, notez donc cette distinction entre ne pas vouloir ou ne pas vouloir que, non vele, et vouloir ne pas ou vouloir que ne pas, non vele. Selon Michaelius, voluntatis functiones sunt vele et nolle, les fonctions de la volonté sont vele et nolle, vouloir et nolle, mais certains distinguent entre nolle et non vele, au sens où id nolimus, nous nolons ce que nous empêchons, alors que non velimus, nous ne voulons pas ce que nous permettons, cum detestatione, avec répugnance ou dégoût. Ich habe es nicht gewollt, je n'ai pas voulu cela, dit Guillaume II, qui probablement avait lu Lütkeschwager et son lexicon Philosophicum Terminorum Philosophi Susitatorum. Je consacrerai une prochaine séance donc au traitement de Welle, Nolle et Non-Welle dans l'histoire des théories de la volonté et de l'action. Et par là se termine notre propos d'aujourd'hui. Je vous remercie et bonne année.